Based on a true story, it eventually became a stage play seen by Poulenc in the early 50s. His opera followed on soon after and had its premiere in 1956. Singing the role of the novice Sister Constance in this production and making her debut at the Royal Opera House was the soprano Anna Prohaska.
Poulenc's Catholic faith inspired the opera very much and the way he composed it. He used quite a lot of elements from the liturgy, medieval hymns like Ave Verum Corpus, Salve Regina, Veni Creator Spiritus, Ave Maria, of course, which we all know. So it's reflected very strongly in this opera. It's not a conventional love story, obviously, but it's a love story between themselves as individual women who have given up their own individual personality to join the Carmel in marriage with Christ. It's a living relationship that they have. And this relationship to God, to Christ, is, of course, then reflected very strongly at the end in the martyrdom. The gravitational point of the opera is very much the interior strength of the convent, these strong-willed women that, through the power of prayer, try to change what is outside in the world, what is happening, the violence, just general anarchic violence which is going on during the reign of terror of Robespierre. And the Carmelites believe that through prayer they can fight against this.
The soprano Anna Prohaska, who sings the part of Constance, one of the novices in the Carmelite convent at Compiègne, where in Act One, Blanche de la Force, a vulnerable, perpetually anxious young noblewoman, seeks refuge. She's sung by the soprano Sally Matthews. Consumed by terror at the unfolding nightmare of the revolutionary uprising, Blanche is granted permission by the dying Mother Superior, Madame de Croissy, the soprano Deborah Pulaski, to join the austere order. She meets her fellow novice, the easygoing Constance, who suddenly shocks her by confiding a premonition that she and Blanche will die together on the same day. But it's Madame de Croissy's agonising death that's the focus of the rest of Act One, as a traumatised Blanche looks on in horror.
Je n'en sais rien. Pourquoi diable ne le demande-t-il pas à ses femmes au lieu d'entrer chez moi sans crier gare comme un Turc?
Je vous demande mille pardons.
À votre âge, il n'y a pas grand mal à être un peu rouge comme il est naturel ou bien de tenir à ses habitudes. La visite de monsieur votre oncle m'a fait manquer ma méridienne et je m'étais tout à l'heure un peu assoupi si vous dire. Mais que voulez-vous à Blanche?
Roger de Damas, qui sort d'ici a dû repousser chemin deux fois pour ne pas se trouver pris dans une grande masse de peuple.
Lorsque le vin est à dessous, on doit bien s'attendre à ce que le printemps échauffe un peu les têtes. Tout cela passera.
Si j'osais me permettre en votre présence de faire le mauvais plaisant, je répondrai qu'en ce qui concerne le carrosse de ma sœur, vous risquez de n'être pas trop mon prophète. La masse de la vie avec un carrefour, au carrefour d'ici.
Le carrosse, la foule, pardonnez-moi, ce sont là des images qui ont trop sauvé hanté mes nuits. On parle volontiers aujourd'hui des maîtres même de révolution, mais qui n'a pas vu la multitude en paix.
Une fois de plus, j'ai parlé comme un étourdi.
Ah, c'est ma vieille tête qui s'échauffe. Elle aussi un peu vide. Mon carrosse est solide. Les vieux chevaux ne s'étonnent de rien. Depuis 20 ans, il ne peut arriver à votre sœur rien de fâcheux.
Oh, ce n'est pas pour sa sécurité que je crains, vous le savez, mais pour son imagination.
Blanche n'est que trop impressionnable, en effet. Un beau mariage arrangera tout cela. Allons, allons, une jolie fille a bien le droit d'être un peu craintive. Patience, vous aurez deux neveux qui feront les sons et les diables.
Croyez-moi, ce qui met la santé de Blanche en péril, ou peut-être sa vie, ne saurait être seulement la crainte. C'est le gel au cœur de l'âme.
Vous parlez comme un villageois superstitieux. Blanche me paraît le plus souvent naturel et parfois même joyeux.
Oh, sans doute, il arrive qu'elle me fasse illusion à moi-même, et je croirais ne s'en conjurer si je n'en lisais toujours la malédiction en son regard.
Lorsque Blanche et sa gouvernante seront ici dans un moment, vous rirez de vos angoisses, et elle oubliera les siennes.
Vous voulez dire qu'elle en aura été une fois de plus, quitte pour la peur, quitte pour la peur. Quand il s'agit d'un mélange, le rapprochement de ces deux mots fait frémir. Une fille si le mal est entré en elle comme le ver dans le fruit.
Enfantillage! Blanche, votre frère avait grande hâte de vous revoir.
Monsieur le chevalier est trop bon pour s'en péter.
répétez pas à tout propos une plaisanterie qui n'a de sens que pour nous deux.
L'imagination va toujours d'un extrême à l'autre. Que signifie ce dernier trait?
Je n'en sais rien, préparateur. C'est son regard et sa voix qui vont à l'âme. Et je commence maintenant de
d'abord vu mon ombre Ce petit incident. Pour un cri, on ne quitte pas le monde par dépit.
Je l'ai méprise par le monde. Le monde est seulement pour moi comme un élément où je le saurais vivre. Oui, ma mère, c'est physiquement que je l'appuie, supporte le bruit, l'agitation.
Conscience de décider si l'épreuve est au-dessus de vos forces ou non.
Je m'en donne à tout, je n'en osse à tout.
Oh, Thank you. Oh, Monsieur Charlebois, c'est un excellent
Oh!
The mother superior, Madame de Croissy, dies in agony in front of the terrified novice Blanche at the end of the first act of Poulenc's Dialogue des Carmélites. Blanche and Constance are given the task of watching over the mother superior's corpse through the night, terrifying the susceptible Blanche. Madame Lidoine, the soprano Emma Bell, is appointed as the new mother superior and tells the whole order to prepare for grave persecution ahead. At this point, Blanche's brother, the Chevalier de la Force, hammers on the convent door. He wants her to leave with him, but she refuses, saying untruthfully that she has no fear of staying. The situation for the nuns is now perilous. The convent's father confessor, the tenor Alan Oak, prays with them for the last time before fleeing into hiding. Mother Marie, the soprano Sophie Koch, suggests they offer themselves up as martyrs, an idea rejected by Madame Lidoine as a sin, before commissioners of the revolution come into the convent and tell the sisters that they must renounce their religious dress and leave. Blanche, in her terror, drops and smashes a small statue of the Christ child. It seems to her like a dread omen as Act Two comes to a close.
Oh! Oh,
cet est domaine proscrit.
Merci sur la porte brille, il vous pio, il vous laisse.
Il me reconnaît trop, peut-être pas.
Vous vous déguiserez.
Oui. Quels sont les ordres que nous avons reçus?
Thank you. Thank you.
The sisters of the Carmelite order are told to renounce their faith and leave the convent at the end of the second act of Poulenc's Dialogue des Carmelites. As Act Three opens, the nuns gather in the chapel, ransacked by the mob, and in the absence of Madame Lidoine, vote in a secret ballot to take vow of martyrdom. There's only one dissenting vote. Constance says it's hers and volunteers to change her mind so everyone can agree. But Blanche, paralysed by fear, whatever the outcome, flees, and the nuns are taken away to prison. Time passes, but Mother Marie, who somehow managed to stay free, searches for Blanche and finds her. Her father has been guillotined and she's working as a servant in the ruins of her former grand home. Marie asks Blanche to return to her sisters, but she says she can't. She's too frightened. Marie doesn't blame her, but gives her an address with a request to meet there at an appointed time the next day. It becomes horribly clear that the following day will be the last for the nuns. At the Place de la Révolution, they walk towards the guillotine, singing the Salve Regina, led by Madame Lidoine. One by one, they die, until only Constance remains. And from the crowd, Blanche emerges and takes her place beside her sister. They die together, just as Constance predicted.
Et dans le feu, de fait être reconnu.
Come on!
que devait servir l'ange.
Je n'en sais pas plus long là-dessus que vous, ma petite fille.
Elle me vient de moi.
Comment donc êtes-vous si sûre, Sœur Constance? Parce que...
Marianne Pico, Marianne Brido, Marie-Cyprienne, Pâle, Rose Cuitin, Anne Dufour, Angélique Roussel, Marie-Gabrielle Tressel, Marie-Geneviève Meunier, Catherine Soirot, Thérèse Soirot, Elisabeth Besalon, pour former des rassemblements et concilier ville, votre révolutionnaire, votre tenue des correspondances fanatiques, en s'élever des écrits liberticides ne forment qu'une réunion de rappel de sélicieuses qui nourrissent dans la queue le désir et l'espoir criminel. Par le peuple français, le mise au fer de Saint-Denis et la liberté engloutie dans les flots du sang de la sainte imagination en pleine époque au nom du ciel.
Tribunal révolutionnaire, Thank you. Thank you.
Courageous at last, Blanche serenely embraces martyrdom alongside her sisters at the end of Poulenc's Dialogue des Carmélites. In this 2014 production from the Royal Opera House Covent Garden, Sally Matthews was Blanche, and her fellow Carmelites were Anna Prohaska, Emma Bell, Sophie Koch, Deborah Pulaski, Elizabeth Sikora and Catherine Carby. Thomas Allen and Yann Buron were Blanche's father and brother. Alan Oak was the father confessor, and other parts were taken by David Butt Phillip, Michelle D'Souza, Ashley Richards, Craig Smith, John Bernays, and Neil Gillespie. Sir Simon Rattle conducted the orchestra and chorus of the Royal Opera House. Well, our opera matinee next week is back to Thursday, as usual. It's a 1973 performance of Donizetti's La Fille du Régiment, starring Luciano Pavarotti. And there's Italian opera on Saturday on Radio 3, Puccini's Turandot. We're back at the Royal Opera House for that, a performance given earlier this summer, and that starts at 6:30. But to finish this week of Afternoon on 3 in the company of Sir Simon Rattle, I'm returning to his recordings with the Berlin Philharmonic. And after our Poulenc opera, some more French music. Claude Debussy's orchestration of the Gymnopédie No. 3 by Erik Satie. Sir Simon Rattle conducting the Berlin Philharmonic in Debussy's orchestration of Erik Satie's Gymnopédie No. 3. And don't forget that you can catch up with this week of Afternoon on Three, celebrating Sir Simon and the Berlin Philharmonic in a selection of their recent concerts, part of our Rattle at Radio 3 season, on the Radio 3 website. Well, the time now is coming up to 4:45. A bit later than usual to hand over to In Tune with Sean Rafferty.
Yes, a very good afternoon. You can never be too rattled. Welcome to the Friday Salon and to In Tune. For me, 20 extraordinary years today since I started 20 years of a veritable host of miraculous musicians.
Instruments of joy.